Le passage biblique de ce matin est tiré de Jean, chapitre 8, versets 37 à 45, et aussi dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 à 7, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, je répète, Jean, chapitre 8, versets 37 à 45, et 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 à 7, nouvelle édition de Genève. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent, « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage, parce que vous ne pouvez écouter ma parole? Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. » On va passer dans 2 Corinthiens 4, versets 3 à 7. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Tous les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous.
Merci, Luc. Alors, je résumerai ça comme ceci ce matin. Ce matin, on va voir ensemble que si Dieu a créé l'univers et tout ce qu'il renferme, tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de merveilleux dans l'univers, d'autre part, le diable, quant à lui, est l'auteur du mal. C'est le diable qui a créé le mal et Jésus-Christ est son pire adversaire. Je répète ça. Si Dieu a créé l'univers et tout ce qu'il renferme, de bon, de merveilleux. Le diable est l'auteur du mal et Jésus-Christ, son pire adversaire. Peut-être que c'est la première fois que tu viens dans une église évangélique et tu dis, « Oh boy, je pense que c'est la dernière fois. Je visite une église et on parle du diable. » OK. Je ne m'attendais pas à ça. Je voulais entendre parler de Dieu, de l'amour, puis quelque chose comme ça. Reste avec moi. Décroche pas. Puis peut-être que tout ça va être plus sensé, plus raisonnable à ta pensée, à ta vision même du monde que tu le penserais a priori. Premièrement, l'homme n'est pas l'auteur du mal. L'homme n'est pas l'auteur du mal. On vit à une époque en Occident où l'être humain veut croire qu'il est au contrôle de sa destinée. L'être humain veut croire qu'il est maître de son destin. Et donc, que s'il y a un Dieu quelconque, c'est peut-être pas vraiment son créateur, c'est peut-être pas celui qui doit diriger sa vie. Chacun d'entre nous, on doit diriger notre vie comme on l'entend. Et l'implication de ça, c'est que si j'ai pas été créé, si j'ai pas quelqu'un qui est l'auteur de mon existence, ben, il n'y a pas non plus un auteur du mal. C'est l'être humain qui a inventé le mal. J'étais en Russie, puis C'était troublant de voir un pays qui, au niveau de la connaissance, c'est un pays occidental, mais qui est privé de croissance parce qu'il y a un régime qui décide que ça ne se passera pas comme ça. Puis ça fait partie de toute la mentalité. Je pourrais vous parler pendant quelques heures de ce qu'on m'a partagé et de ce que j'ai pu comprendre, mais il y a vraiment une oppression qui est là très claire. Et donc, on peut croire que l'être humain est l'auteur du mal, que l'être humain est l'auteur de toutes les horreurs qu'on voit, qu'on lit dans les journaux, toutes les horreurs qu'on entend dans les vies autour de nous, les abus, les viols, les meurtres. Cependant, les Écritures nous disent que ce serait s'accorder déjà trop de crédit. L'être humain n'est pas l'auteur de sa propre vie, c'est Dieu qui nous a créés, et l'être humain n'est pas l'auteur du mal non plus. Et je pense que si on veut être honnête avec nous-mêmes, la majorité des êtres humains vont reconnaître en eux cette conviction que notre bonheur se trouve à faire le bien, pas à faire le mal. On fait tous le mal par moment. On a des gestes d'égoïsme, on a des choses qu'on ne voudrait pas qu'ils soient dévoilées sur la place publique. Mais si on veut être honnête avec nous-mêmes, je crois que à peu près tous les êtres humains vont reconnaître qu'intuitivement, on sait que notre bonheur se trouve à faire le bien, pas à faire le mal. Et les Écritures nous disent que ça ne vient pas de nous premièrement, le mal. C'est le diable qui l'a créé, c'est le diable qui l'a placé devant nous. La Bible nous révèle tout un monde qui nous dépasse, qui va au-delà de notre entendement et qui nous aide à comprendre beaucoup de choses. Dieu nous a créés à son image, puis Dieu nous a créés pour qu'on soit des êtres qui aimons, qui allons être sensibles aux gens autour de nous, qui allons aller aider des gens qui sont mal pris. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Et je crois qu'intuitivement, on sait ça. On sait ça. Même si on se sent souvent incapable de faire le bien. Et donc, la Bible nous révèle un monde qui nous dépasse, qui explique des choses qu'on ne saisit pas autrement. Et on voit le mal apparaître dans la Bible au tout début de la Bible, dans la Genèse. Qu'est-ce qui se passe dans la Genèse? Genèse 3:1. « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Alors, le diable est là au début, puis bon, ben c'est un serpent, qu'est-ce qu'il y en a exactement? Un passage plus loin dans l'Apocalypse nous aide à saisir vraiment qu'il s'agit du diable. Je vous lis aussi dans Apocalypse 12:9. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et donc, le diable est là à la création pratiquement de l'humanité, pratiquement dès le début, et il vient et sa proposition, il vient pour suggérer, séduire l'être humain en lui disant, tu devrais penser être autonome à l'égard de Dieu. C'est peut-être lui qui t'a créé, mais est-ce que vraiment ton bonheur se trouve à l'honorer, à le servir, à reconnaître qu'il est ton créateur? Peut-être que tu peux te détacher de lui puis t'inventer toi-même. C'est ça, dans le fond, la séduction qui est proposée au tout début. On découvre Satan au tout début de la Genèse, puis possiblement, il y a un passage prophétique que vous connaissez peut-être dans Ésaïe 14, versets 12 à 15. Possiblement qu'on a ici le récit de sa chute, parce que Satan aurait été un ange de lumière, un ange de Dieu qui a désiré prendre la place de Dieu. Et donc, dans Ésaïe, on a la description d'un roi très prétentieux qui prétend aux plus grands honneurs, mais probablement dans la description qui semble dépasser ce qu'un être humain pourra être, on aurait aussi une description du diable lui-même. Je vous lis dans Ésaïe 14, versets 12 à 15. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. On a des passages comme ça dans les psaumes, dans les livres prophétiques, où il y a la description d'un roi ou d'un être humain, mais au fur et à mesure que tu le lis, tu dis, OK, il y a un double sens ici. Dans certains cas, ça va être utilisé pour parler du Messie qui va venir. C'est très, très clair parce que ça dépasse ce qu'un être humain pourrait vivre. Et donc, plusieurs pensent qu'ici, on a une description de la chute de Satan, qui était un ange de Dieu, probablement le plus grand après Dieu, et qui a convoité justement d'avoir cette autonomie, se détacher de Dieu pour pouvoir diriger sa vie lui-même. Et Dieu l'a jugé. Et après, à quoi est-ce qu'il va se consacrer? À proposer la même chose à l'humanité. Et donc, c'est l'histoire du rapport entre le diable et les hommes. Maintenant, les Écritures nous disent aussi que plusieurs anges l'ont suivi dans sa chute. Plusieurs anges ont été tentés, eux aussi, de s'enorgueillir et de se détacher de Dieu. Dans 2 Pierre, on lit 2 Pierre 2,4, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. » Donc, il y a des anges qui se sont rebellés contre Dieu et qui ont péché. « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. » C'est ce qu'on appelle généralement des démons. D'accord? Fait que les Écritures nous parlent de ça. D'un monde surnaturel qui n'est pas seulement composé de Dieu et de ses anges, mais aussi d'un ange par excellence qui s'est rebellé contre Dieu et qui est déchu, qu'on appelle Satan ou le diable, et qui œuvre maintenant avec d'autres êtres spirituels. Et pour moi, ceci fait du sens lorsque je regarde à l'être humain qui se bat entre le mal et le bien, qui est capable des choses les plus belles puis des choses les plus horribles. Je crois qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui est au-dessus de nous. Alors, quelle est l'œuvre du diable sur la terre? Qu'est-ce qu'il fait selon les Écritures? La parole de Dieu nous révèle que son œuvre est une œuvre de séduction et de destruction. Quand vous pensez au diable, pensez toujours à ça. Séduction, destruction. Constamment, c'est ça. À partir de la Genèse, c'est ça qu'il fait. Le diable, à défaut d'avoir réussi à s'élever à la hauteur de Dieu, au-dessus de Dieu, et parce qu'il a été jugé, à défaut de cela, s'applique à séduire ceux qui voudraient marcher avec Dieu pour les entraîner avec lui dans sa destruction. Et donc, c'est ça toute son œuvre. C'est une œuvre de séduction et de destruction. Puis, lorsqu'on va essayer de penser, est-ce qu'aujourd'hui il est actif? Est-ce qu'on le voit dans la société? C'est dans cette direction-là qu'on va penser. Est-ce qu'il y a des éléments qui nous séduisent pour nous éloigner de la parole de Dieu, de la pensée de Dieu, puis qui, en fait, sont en train de détruire à bien des égards notre société, par exemple? Fait que le diable exerce encore aujourd'hui une influence énorme sur le monde qui est réel, qui est souvent visible. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on cherche l'œuvre du diable, on va penser aux idoles. Voyez-vous, dans la Genèse, lorsque Adam et Ève sont là, ils sont en communion avec Dieu, ils ont un seul Dieu qui est parfait, ils l'adorent, ils le célèbrent, c'est leur bienfaiteur, c'est lui qui les a créés, il y a une harmonie parfaite qui est là, puis le diable vient avec une proposition. Il propose à Ève et à Adam de dire, mais est-ce que vraiment tu as besoin de dépendre comme ça de Dieu? Est-ce que tu ne pourrais pas te détacher de lui? Est-ce que tu ne pourrais pas aller chercher ton autonomie puis vivre sans Dieu? En somme, c'est ça sa proposition. Est-ce que tu ne pourrais pas adorer quelque chose, peut-être ta volonté, toi-même, au lieu d'adorer Dieu? Et puis, ils ont succombé à cette séduction-là. Ils ont suivi le diable dans ça. Et ce que ça a donné à travers tout l'Ancien Testament, c'est qu'on voit que les êtres humains, plutôt que d'adorer Dieu, s'inventent des dieux. Se crée des dieux. On appelle ça des idoles. On les trouve dans toutes les religions. Et puis même Israël lutte constamment avec la tentation de se tourner vers ces dieux-là que l'être humain s'est inventé, qu'il s'est créé. Ce sont des idoles qui leur permettent de vénérer quelque chose d'autre que Dieu. Puis ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, c'est qu'avec le culte à ces idoles-là, il y a une dégénérescence de la société, il y a un paquet de conséquences qui viennent avec ça, parce qu'il y a des péchés qui sont entraînés. Il y a une destruction dans la société, il y a des vices, il y a une débauche, il y a du meurtre, il y a de la violence qui est entraînée, il y a un dérèglement, parce que ce n'est pas l'auteur de la vie qui les a inspirés, c'est l'auteur de la mort qui les a inspirés. Est-ce que vous me suivez? Quand tu adores quelqu'un d'autre que celui qui a créé la vie et qui a créé l'être humain, Mais tu es en train d'adorer quelqu'un qui donne la mort, qui a inventé le mal. Si tu adores autre chose que le Créateur, celui qui nous a donné la vie, inévitablement, tu vas terminer avec une espèce de perversion de ça. Et tout l'Ancien Testament nous montre ces idoles-là qui conduisent, qui entraînent chez ces peuples-là toutes sortes de comportements destructeurs, affreux. Puis lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, c'est intéressant, on arrive avec Jésus, puis on dirait qu'Israël est libéré de ces combats-là. C'est vrai, si vous êtes familier avec les quatre évangiles, Israël ne semble pas être en train d'adorer plein d'idoles. Ça a l'air d'être comme... C'est réglé tout ça, c'est fini. Eux autres, ils sont comme repliés un peu, puis on ne touche pas aux croyances des autres. On est repliés sur nous-mêmes pour se mettre à l'abri. Et puis Jésus vient, et Jésus va dévoiler une autre forme d'idolâtrie. Chez les autorités religieuses, chez ceux qui dirigent le peuple, et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers Jean 8 tantôt. Chez les autorités religieuses, on a pris toute la loi de Dieu, puis on s'en est servi pour contrôler les gens, pour s'élever au-dessus des autres, pour contrôler le peuple sans être sincère, sans être vraiment engagé. Ils sont en train de se servir de cela pour contrôler le peuple, alors qu'ils ne sont même pas eux-mêmes spirituels. Et donc, il y a une espèce de pratique de fausse religion, et la religion ne sert pas à adorer vraiment Dieu. La preuve, c'est que lorsque Jésus va arriver, Dieu incarné, la présence de Jésus leur est insupportable. À l'homme religieux, là, celui qui s'est trouvé une religion pour se justifier lui-même puis montrer qu'il est supérieur aux autres, Jésus est insupportable. La vérité de l'Évangile, la personne de Jésus, ils réagissent super mal devant Jésus. Puis là, Jésus entre en conflit avec eux parce qu'ils sont constamment en train de s'opposer à lui, au point même qu'ils veulent le mettre à mort. Et Jésus leur dit dans Jean 8, 44, « Vous avez pour père le diable. » Là, il parle au peuple d'Israël. Mais leur rébellion envers Dieu, c'est que la religion leur sert à se justifier eux-mêmes plutôt qu'à être humbles devant Dieu puis à l'adorer. « Et vous voulez accomplir les désirs de votre père, leur dit Jésus. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et père du mensonge. » Lorsqu'on pense au diable, regardez comment l'Apocalypse décrit son œuvre, d'accord? Dans Apocalypse 12, 9, il fut précipité, je l'ai cité tout à l'heure, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. L'œuvre du diable, c'est une œuvre de séduction. C'est une œuvre de séduction. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, puis qu'on arrive dans les lettres de Paul, Paul nous dit, OK, peut-être que les gens n'adorent plus tous des idoles. Tu sais, oui, il y en avait à Athènes, il y en avait chez certains peuples, mais il dit, même les chrétiens pourraient être tentés d'avoir des idoles. Et là, c'est comme si Paul s'en va à la racine du problème. Il s'en va vraiment au cœur du problème, au fondement même du problème. Puis il dit, dans le fond, l'idolâtrie, c'est lorsque je veux me détacher de Dieu puis trouver mon bonheur ailleurs qu'en Dieu. Et là, à ce moment-là, on peut faire ça avec n'importe quoi, même avec les meilleures choses que Dieu a créées. On parle souvent d'idoles ici à l'Église. Je veux dire, ça peut être mon standing, ça peut être ma shape, ça peut être l'amour qui, si Dieu ne me la donne pas, je vais être en joie le vert après Dieu, puis je ne voudrais rien savoir de Dieu. Puis tu vois, l'amour peut devenir elle-même une idolâtrie. Je cesse de dépendre de Dieu puis de me tourner vers lui pour chercher mon bonheur comme moi je l'entends. Et là aussi, il y a une séduction de la part du diable de dire non, je sais que Jésus t'a promis le bonheur, mais il n'y a pas de l'air de livrer, hein? Il n'y a pas de l'air de livrer. Moi, je ne te trouve pas très, très heureux comme chrétien. Fait que peut-être que dans le fond, tu dois chercher ton bonheur ailleurs. Parce que je pense que ton bonheur se trouve ici, là, dans ça. Puis Jésus ne semble pas te le donner. Et parfois, Dieu est en train de révéler une forme d'idolâtrie dans notre cœur. Où on arrête de dépendre de Dieu puis d'attendre de lui, puis on se tourne vers des choses qu'on va construire nous-mêmes. Fait que cette idolâtrie-là est encore présente. Aujourd'hui, en Occident, on va définir ça comme moi qui suis au centre. C'est moi qui est le centre de mon univers. C'est moi qui définis mon autorité. Je vous donne un exemple concret. Esther enseigne au primaire. Puis mon épouse Esther, enseigne au primaire. Un petit enfant, primaire. Ça va pas du tout, pas respectueux, tout ça. Règle de l'école, il faut avoir l'autorisation des parents pour que l'enfant soit gardé en retenue. C'est beau. Peut-être que ça fait du sens. C'est bon. Fait qu'il faut demander la permission aux parents. Fait qu'Esther parle. Je n'ai même pas demandé la permission à Esther avant de raconter ça. Esther parle avec le parent. Le parent, après l'avoir écouté attentivement, Esther dit, « Bon, j'ai entendu ta version. Maintenant, je vais écouter la version de mon enfant, puis je vais voir si j'autorise la retenue. » Intéressant, hein? C'est vraiment intéressant. Moi, j'ai l'impression d'entendre le diable dire, chuchoter à l'oreille de l'Occident, « Dieu a-t-il réellement dit qu'il faut honorer les autorités? » Mais Dieu a-t-il réellement dit qu'il faut honorer nos parents? Mais Dieu a-t-il réellement dit qu'il y a des gens qui sont au-dessus de toi? Je ne suis pas sûr que Dieu a dit ça. C'est toi qui es au centre. Alors, voyez-vous, il y a encore cette notion-là. Le cœur de l'homme se forme des idoles, puis le diable se complaît. On rit des idoles anciennes qui étaient forgées dans l'or ou dans le bois, mais on forge des idoles dans notre culture qui sont encore plus subversives, encore plus cachées, moins évidentes à voir. C'est au nom du bien personnel puis de l'épanouissement. Fait que je vous laisse avec un exercice, juste sur ce point-là, juste un exercice cette semaine. Quand vous allez lire la parole de Dieu ou quand vous allez arriver dans une situation, puis vous savez, parce que vous avez déjà lu la parole, vous connaissez les principes de la parole, vous savez ce que Dieu attend de vous. Essayez juste de voir s'il y a une autre voie qui vous suggérerait que c'est peut-être pas la meilleure affaire à faire pour votre bonheur. Vous savez, là, c'est quoi la bonne chose à faire dans ce cas-là? Puis il y a une hésitation parce qu'il y a comme... pas sûr que c'est le bon choix si tu veux passer une bonne journée, mon ami. Et moi, j'ai l'impression d'entendre le diable qui chuchote à nos oreilles. Dieu a-t-il réellement dit que tu devais être honnête? Que tu devais payer les taxes, que tu devais dire la vérité, que tu ne devais pas regarder la belle jeune fille qui vient de passer, que tu devais honorer les autorités, que tu devais aller demander pardon si tu avais été malhonnête ou tu avais fait du mal, que tu devais t'abstenir de faire de la médisance contre les gens. Dieu a-t-il réellement dit ça? Et je pense que c'est omniprésent dans notre société. On pourrait donner des dizaines et des dizaines d'exemples ainsi où on voit comment notre société a développé un culte envers l'homme et s'est détaché de son Créateur. Puis c'est définitivement, selon les Écritures, une œuvre diabolique. Mais Dieu a envoyé Jésus-Christ. Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre. Puis c'est fascinant lorsqu'on commence à lire les Évangiles. C'est comme si, tantôt j'ai dit pour les gens religieux, la présence de Jésus est insupportable. Imaginez pour les démons. Fait que dans toute la Bible, la plus grande activité démoniaque se concentre autour du moment où Jésus est sur la terre. Les Écritures nous disent que Jésus est le Fils de Dieu. Fait que t'as Dieu qui, incarné, fait homme, vient marcher parmi les hommes. Les démons explosent. Ils sont plus capables de rester en place quand ils se pointent. Puis là, on voit toute la réaction. Puis les gens sont émerveillés de voir ça parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Dans Actes 10, 38, on lit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Jésus est venu pour dévoiler les activités du diable. Dévoiler les activités du diable dans la religiosité même des chefs religieux de l'époque qui n'avaient pas une foi pure et simple pour la gloire de Dieu puis pour le bien de ton prochain. Puis Jésus vient puis il vient dévoiler ça, il vient dévoiler les péchés, il vient exposer ça. Et il vient pour littéralement détruire l'œuvre de destruction que le diable avait entreprise. Jésus vient pour restaurer notre communion avec notre Créateur. C'est ça sa mission. C'est ça qu'il est venu faire. Fait que si on veut penser à l'idée, la notion du diable qui est à l'œuvre dans notre culture, comme chrétien, on doit penser à Christ immédiatement. Parce que Christ est celui qui est venu pour détruire cette œuvre-là. Sans lui, on est toujours en position, on essaie de résister à la possibilité de s'éloigner de Dieu. Mais par nous-mêmes, on n'est pas capable de rétablir cette communion avec Dieu qui a été perdue à la chute de l'humanité. Et Christ vient pour rétablir cette communion-là. Si l'homme n'est pas l'auteur du mal, on a été entraîné dans le mal, on a été séduit, on a été amené à se détourner, on a quand même décidé de se rebeller contre Dieu. Et on n'est pas innocent dans ça. Puis pour neutraliser l'œuvre du diable dans nos vies, ça prenait absolument la venue de Jésus-Christ. Et l'œuvre suprême de Christ pour neutraliser toutes les œuvres du diable, c'est la croix. C'est l'Évangile. C'est la bonne nouvelle du sacrifice de Jésus à la croix. Et donc, lorsque vous allez penser à la présence du diable dans la culture, vous devriez penser rapidement à la croix de Jésus-Christ. On lit dans Colossiens 2,15, « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix, par la croix. » Lorsque Christ s'est offert en sacrifice à la croix, il a vaincu le diable. Il a vaincu ce séducteur-là qui nous tenait dans la servitude, qui nous avait séduits pour nous éloigner de Dieu. Écoutez ça dans Hébreux 2, 14-15. « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé dans le sens que Jésus s'est incarné et est devenu un homme comme nous, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Donc, le diable tient l'humanité dans la servitude. Et la seule bonne nouvelle pour nous aider à être libérés de son influence, c'est la mort de Jésus-Christ à la croix, sa résurrection d'entre les morts. C'est lui qui a vaincu le diable. C'est lui qui est venu offrir sa vie en sacrifice pour nous racheter et rétablir cette communion qu'on a perdue avec Dieu. Quand vous pensez au diable puis vous pensez au combat qu'on a livré, vous devez toujours penser à l'Évangile. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle qu'on a apportée dans notre société. Comme chrétien, il y a plein de choses qui nous troublent dans la société, puis on voit des choix qui sont faits, puis on est effrayé de voir où s'en va la société. Mais on a dans nos mains un trésor inestimable qui est une clé pour libérer les gens de toute servitude, de toute influence du diable. Et c'est l'Évangile de Jésus-Christ. On a dans nos mains une clé qui leur permet de restaurer leur relation avec Dieu. Est-ce que ça, c'est pas une bonne nouvelle? C'est une nouvelle extraordinaire. Puis si les gens ne croient pas au diable, je ne commence pas par là. Mais je sais que j'ai une bonne nouvelle, je peux restaurer une relation. Et au fur et à mesure que l'Évangile va commencer à éclairer leurs yeux, ils vont voir le péché qui est présent dans leur vie. Mais j'ai cette clé-là. Alors lorsqu'on pense au combat qu'on a livré dans le monde face au diable, les Écritures nous disent que le chrétien est engagé dans une guerre spirituelle. On est engagé dans un combat qui est à terminer seulement au retour de Christ. Dans Éphésiens 6, Paul parle de... Il nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Hier, je m'en revenais d'une conférence avec des gens de l'Église. On était à Montréal, puis j'étais en plein jet lag. Fait qu'à 6 heures, pour moi, il était minuit, puis j'étais fatigué. Puis il y a un zouf qui s'est comporté comme un zouf derrière moi. Puis c'était dangereux ce qu'il était en train de faire. Mais les Écritures me disent que ce n'est pas contre lui que j'ai à lutter. Il y a un orgueil en lui qui fait qu'il va se comporter d'une manière ou d'une autre. Puis je n'ai pas à entrer en conflit avec lui. Mon conflit, mon combat est spirituel. Il est avec le diable, ce combat-là. Et on est appelé comme chrétien à discerner ça. Donc c'est pour ça que je disais au début, si vous êtes de ces chrétiens qui pensaient au diable deux fois par année, ou vous voyez un film qui passe à la TV, puis vous dites « Oh, OK, ça a l'air diabolique », ou l'Halloween arrive, OK, le diable, tu viens de penser à lui, bien, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que pour de vrai, on est engagé dans un combat constant. Et le seul remède, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Ce qu'on est appelé à faire, c'est prêcher l'Évangile. Je vous laisse avec deux pensées, d'accord? Puis la semaine prochaine, on va développer ça davantage. Regardez bien ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 4, les versets 3 à 6. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on les a lus, d'accord? Je vais juste vous relire le passage. « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. » Paul est en train de parler du diable ici, là. « Le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence, a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Quand Christ est venu, parmi les pharisiens, parmi les juifs, sa présence leur était insupportable. Puis il leur dit, « Vous n'êtes pas capables de supporter ma présence parce que votre père, c'est le diable. » Mais les autres, ils disent, « Non, on a pour père Abraham. On est descendant d'Abraham. On n'a pas le diable pour père. » La vérité, c'est que tous les êtres humains, tant que l'Évangile, la bonne nouvelle du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, n'entre pas en action dans notre âme, on est tous fils du diable. On n'est pas plus mauvais que les autres, mais on est tous sous l'influence du diable. Parce que le péché domine dans nos vies de toutes sortes de manières, et on est étranger à cette communion avec Dieu, même si on peut aspirer à être près de Dieu. Paul continue en disant, « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus, car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. » Dieu qui a dit, « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Quand l'Évangile entre dans nos cœurs, on découvre qui est Christ. Et ce qu'on voit sur la personne de Jésus-Christ, sur ce qu'il a fait à la croix, sa mort, sa résurrection, on voit la gloire de Dieu. Et tout d'un coup, on discerne ces manigances du diable qui faisaient qu'on avait plein d'idoles dans nos vies, qu'on vivait pour nous-mêmes dans une rébellion constante envers Dieu. Et donc, notre combat spirituel à livrer, c'est d'annoncer l'Évangile. Je vous ai raconté l'histoire très brièvement de cette église-là à Toulouse qui avait un super beau site pour leurs enfants, puis enfin, ils allaient pouvoir avoir une église dans quelque chose qui était plus simple, tout ça. Puis quand ils viennent s'installer, il y a un réseau de prostitution qui est là. Tantôt, là, j'étais pas vulgaire quand je vous disais que le stationnement est sale, d'accord? J'étais très sérieux. Je suis allé voir Vincent, j'ai dit, je pense qu'il faut nettoyer le stationnement, d'accord? Donc, j'étais très, très sérieux. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je vous dis, si vous étiez là, puis vous rendiez à l'église le dimanche matin à 10h, puis vous voyez ces petites jeunes filles-là qui, de toute évidence, sont complètement utilisés, mais qui sont là pour se prostituer dans des tenues que tu ne veux pas que tes enfants regardent quand tu t'en vas avec tes petits-enfants à l'église. C'est quoi la réaction comme église? On va s'enfermer dans nos cavernes. On va se mettre à l'abri du mal. Paul nous dit non, Dieu nous a donné cette lumière de l'Évangile qui doit être apportée dans les cœurs. Et Dieu nous a donné cette puissance-là. Maintenant, dernière question, c'est Est-ce qu'un chrétien, dans son combat contre les forces du diable, peut être lui-même influencé par le diable? Regardez bien ça avant de répondre, d'accord? Dans 1 Corinthiens 1, les versets 10 à 13, c'est Paul encore qui parle, puis il dit ceci. « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division au milieu de vous, mais à être unis, parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Il y avait des divisions à Corinthe, puis Paul ne leur dit pas commencer à chasser des esprits de division dans l'Église, mais chercher l'unité ensemble. Un autre passage, dans 2 Timothée 2, versets 24 à 26. « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable, c'est-à-dire être bon, doux, pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que revenu à leur bon sens. » Il est en train de parler de situation dans l'Église. Ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Et donc, c'est possible pour un chrétien d'être emporté dans un péché puis de se comporter de manière charnelle. Et dans l'Église, notre mission, c'est aussi de se prêcher l'Évangile les uns aux autres, se prêcher la parole pour aller dans la repentance, de se redresser les uns les autres. C'est ce que Paul faisait dans toutes les églises où il allait. Donc, lorsqu'on pense au diable dans la culture, il est là, il est présent. Il existe encore, il est influent. Si on connaît la parole de Dieu, on regarde notre société, puis on dit, au moins dans ses effets, son œuvre est évidente. Une œuvre de destruction qui cherche à détruire les familles, à détruire les foyers, à détruire les vies littéralement, qui bâtit une économie souvent sur le mensonge, puis toutes sortes de choses comme ça. Ces œuvres sont évidentes aux yeux de celui qui connaît la parole de Dieu. Cette œuvre-là, c'est une œuvre de séduction. C'est une œuvre où le diable veut proposer des idoles à la place de Dieu. Et les gens qui sont autour de nous sont aveuglés par le Dieu de ce siècle. Ils ont toutes sortes d'idoles dans leur vie qui amènent toutes sortes de symptômes, de comportements qui peuvent être parfois effrayants pour nous. On voudrait rester reclus dans nos monastères à l'abri de ces vies-là tout croche. Mais Dieu nous dit que ce n'est pas ces gens-là qu'on est en train de combattre. Je n'ai pas à combattre un être humain, jamais. C'est un combat spirituel que je suis en train de livrer, sachant que le diable a séduit ces gens-là. Et Dieu m'a donné l'Évangile de Jésus-Christ pour que je leur apporte la solution. Et lorsque je leur annonce l'Évangile de Jésus-Christ, l'œuvre de Christ à la croix, sa mort et sa résurrection, sa venue sur la terre, lorsque j'expose l'Évangile, Dieu, dans sa grâce, peut se servir de cet Évangile-là pour éclairer leur cœur puis les libérer de ça. Et ça ne veut pas dire, comme chrétien, que je ne serai jamais séduit par des mensonges du diable puis que je ne vais pas commencer à avoir des idoles dans ma vie. Non, c'est possible que j'en ai. Mais encore une fois, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller vers l'Évangile, je vais aller vers les Écritures et on va se prêcher ensemble l'Évangile. On va se prêcher ensemble la parole l'un à l'autre. Je vais aller voir mon frère puis je vais dire, écoute, il y a quelque chose qui m'inquiète dans ta vie. J'aimerais ça m'asseoir avec toi puis t'en parler. Parce que je pense que tu as été séduit ici. Je pense que tu t'es peut-être égaré puis tu as besoin de revenir, tu as besoin d'être restauré avec la parole de Dieu. Je sais que le diable, dans notre culture, ça a l'air de quelque chose de drôle, puis on fait des films sur ça. La réalité, c'est qu'on est engagé dans un combat spirituel. Et Dieu nous a donné l'Évangile de Jésus-Christ pour aider les gens. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. La semaine prochaine, on va parler du diable dans la culture. Qu'est-ce qu'on fait comme chrétien avec tout ce que la culture possède d'occulte, d'images diaboliques, même de fêtes comme l'Halloween et toutes ses origines? Qu'est-ce qu'on fait avec ça comme chrétien? C'est quoi notre réponse à ça? Est-ce qu'on reste chez nous? Est-ce qu'on a un message à apporter? On va discuter de ça ensemble la semaine prochaine. On va aller ensemble dans un mot de prière. Père éternel, j'aimerais te prier ce matin pour nous comme assemblée. Seigneur, tu nous as fait connaître l'Évangile de Jésus-Christ, puis on a reconnu que tu es Dieu, que tu es lumière, que tu es vérité. Tu es venu éclairer nos vies, Seigneur, avec l'Évangile. Pas qu'on est meilleur que le reste des hommes. Au contraire, tu nous as montré qu'on était pécheurs. Tu nous as montré, Seigneur, qu'on s'était égaré loin de toi. Tu nous as montré, Seigneur, qu'on avait été séduit par toutes sortes d'idoles dans nos vies qui prenaient ta place. Et qu'on était en quête de bonheur dans des choses qui ne remplissent pas l'âme humaine, mais qui nourrissent plutôt une attitude de rébellion, de révolte, une quête d'autonomie loin de toi. Seigneur, merci pour l'Évangile de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci d'être venu parmi les hommes, t'offrir un sacrifice pour nous, Seigneur. Seigneur, tu es lumière, et t'as apporté cette lumière dans nos cœurs, dans nos vies. Et comme Église, nous voulons habiter parmi le monde, Seigneur, en apportant cette lumière. On veut, Seigneur, aller parmi les hommes, non pas se cacher, mais exposer la vérité de l'Évangile, Seigneur. Et entre nous, dans nos relations les uns avec les autres, on veut aussi apporter la lumière de la parole, Seigneur. Être capable, avec courage, de s'asseoir avec un frère, une sœur, avec mon épouse, avec mon mari, avec ma famille, avec mes enfants, puis apporter la lumière de la parole, sans crainte, parce que tu veux nous libérer aussi, parce que parfois on a été séduit, Seigneur. Seigneur, ce matin en Église, on veut t'adorer parce que tu es plus puissant que celui qui est dans le monde. Seigneur, on veut t'adorer parce qu'on n'a pas à craindre qui que ce soit, sinon le Dieu qui a créé les cieux et la terre, et nous savons que tu nous as aimés, Seigneur. Aujourd'hui, nous ne marchons plus dans la crainte et dans l'aveuglement, nous marchons dans la joie et la liberté, Seigneur. Alors, comme Église, aide-nous à rentrer pleinement dans cette liberté et à proclamer haut et fort l'Évangile de Jésus-Christ. C'est dans son précieux nom que nous prions. Amen.